À voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Louis Chédid. Ce soir, premier succès, premier synthétiseur.
Bonsoir Louis Chédid.
Bonsoir.
Hier soir, nous avons parlé de votre début dans votre métier.
Ouais.
En 1973, sortait votre premier 33 tours, Balbutiement. Vous abandonnez petit à petit le montage de films pour la musique.
Oui.
Et ce soir, nous allons parler des succès. Le premier succès arrive en 1978. T'as beau pas être beau. Et puis après,
il y en a eu avant. Alors, il y a eu un premier succès de discothèque qui s'appelait Hold Up, qui était une attaque de banque comme ça, et qui était en 76, je crois, ou même avant, peut-être 75. Et puis après, il y a eu Je me suis fait la belle, qui était avant.
Ah, je croyais que c'était postérieur.
Non, c'était avant.
Ah, oui. Ouais.
Et puis après, il y a eu T'as beau être beau.
Ah, oui.
Mais le vrai succès numéro un, machin, c'était T'as beau pas être beau, hein, ça c'est sûr.
Où l'on entend vos enfants tout petits.
Oui, exactement. Ouais,
exactement. Ils sont tout petits.
Qui étaient dans le.
Kiffons.
Mathieu et Émilie, ils chantent. Parce que j'avais besoin de cœur comme ça, qui faisait oh, oh. Et j'avais besoin d'enfants qui devaient se mélanger aux adultes. Et donc j'en avais deux sous la main, je les ai mis.
Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi, alors Hold Up ou Je me suis fait la belle,
oui, oui.
Pourquoi un tube
non,
est un
si
tube?
Si je savais, j'en ferais tous les jours. Non, je ne sais pas. Ah, non.
Et même a posteriori, ça peut... Enfin,
bien sûr, non. On sait absolument pas. Il n'y a aucune raison rationnelle. Enfin, il n'y a aucune raison pour que ça marche ou que ça ne marche pas, d'ailleurs. C'est exactement pareil. Ça rencontre le public à un moment donné. Il y a une chanson ou un film, etc., qui, le public attendait ça, mais alors, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment magique, ça. C'est pas du tout... Et à chaque fois qu'on fait un disque, on sait pas du tout ce que ça va donner. Parce qu'il y a des gens qui sont soi-disant fabricants de tubes et de choses comme ça, mais... Si on savait le faire, on en ferait tous les jours. Vous voyez, non. C'est heureusement que c'est comme ça, d'ailleurs.
Et le succès dans ces années-là, la fin des années, milieu des années 70, change quoi pour vous? Est-ce que vous sentez des ailes? Est-ce que vous prenez la grosse tête? Est-ce que...
Je vais vous dire... Ah oui, je prends la grossette. Non, je pense pas que je vais vous dire ça. Même si je l'avais pris.
Parce qu'il y a des artistes qui disent oui, pendant un an ou deux.
Non. Moi, ça va être... Franchement, ça, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Mais... de toute façon, c'est quand même la récompense. Hein. Quand on fait ces métiers-là, c'est quand même pour avoir un écho. C'est pas pour rester anonyme et être inconnu. Et que, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas plus triste pour quelqu'un qui fait un métier public de pas être connu? Ouais, un chanteur qui dit que personne ne reconnaît, ou un comédien que personne ne reconnaît, c'est blessant. Enfin, c'est pas... Donc voilà, ça, la célébrité va avec ces métiers-là. Et donc, c'est sûr que quand on a un premier succès, on est très content, parce que c'est vraiment... tout d'un coup, les choses s'illuminent un petit peu, quoi. Et puis, les portes s'ouvrent plus facilement. Enfin, vous savez comment c'est, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on ne prête qu'aux riches, et plus on a de succès, et plus les gens sont bienveillants, ouverts, plus vous avez de projets, plus vous avez de choses à faire. Enfin, voilà. Ça, c'est évident.
Et vous participez au conte musical Émilie Jolie.
Ouais, absolument.
En 1978.
Ouais, 19, je crois.
19. Un conte écrit par Philippe Châtel. Avec beaucoup de stars.
Ah oui, absolument. C'est la première fois qu'il y avait ce genre d'album conceptuel comme ça, pour enfants et adultes, en fait. Parce que pour les deux générations. Et moi, c'était une expérience formidable, parce que, mis à part les gens de ma génération comme Souchon, Voulzy, qui faisait partie du truc.
Julien Clerc.
Enfin, c'est pas ma génération, Julien Clerc. C'est un peu plus... il a commencé plus tôt que nous. Il est plus... on a à peu près le même âge, mais il a commencé plus tôt que nous. Mais il y avait aussi Brassens, il y avait Salvador, il y avait que des gens comme ça que qui étaient un peu des statues quand même. Hein. Et voilà, c'est un très beau projet qui a marché du feu de Dieu. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a donné envie. Je m'interrogeais pendant des années, je me suis dit, mais c'est fou qu'il n'y ait pas un nouvel Émilie Joly, que quelqu'un ne fasse pas un conte musical pour enfants et adultes. Et puis l'idée a mûri, et puis tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et puis donc j'ai fait le Soldat Rose. Mais ça a pris presque 30 ans.
Et pourquoi personne n'en a fait avant? Parce que c'est
Parce
ça,
que,
parce
non,
qu'on
mais
peut plus rien
c'est
faire
faux que
d'autre.
personne n'en a fait
Ouais.
avant. Il y a plein de
Non.
gens qui en ont fait,
Ils n'ont pas eu de succès.
mais ça n'a pas marché. Ouais. Ou du moins, ça c'est resté anonyme, si vous voulez. C'est resté vraiment pour enfants, dans un petit milieu, dans un petit une niche, quoi, si vous voulez. Mais là, ce qui va être bien avec Émilie Joly ou le Soldat Rose, c'est que c'est des choses qui ont été faites pour les enfants, voilà, en essayant de ne pas être trop bêtifiant et que les chansons plaisent aux parents. Et tout d'un coup, c'est devenu un phénomène, quoi. C'est ça qui fait la différence.
Et comment était Brassens
Il était un peu fatigué à l'époque, parce que c'était en 79, et le pauvre est mort en 81. Donc il était un peu fatigué, un peu éteint, mais bon, c'était quand même. Il écoutait tout, Brassens, en fait. Il écoutait énormément la radio, il savait tout ce qui se passait, etc. Et donc il avait entendu mon morceau, là, Label, je crois. Je me suis fait Label, il m'en avait parlé, tout ça. Donc j'étais très, très impressionné, très. Ému de voir ce monsieur en train de me parler de mes chansons, c'est un truc dingue. Pour moi, c'était un truc dingue, et pour nous tous, enfin, parce que lui, c'est quand même un sacré bonhomme.
Et Salvador, Henri Salvador?
Charmant, on dit ça là. Très rigolo, tout le temps, en train de déconner, faire le rigolo. J'aime beaucoup Henri Salvador. Aussi.
Comme il n'y avait que deux comme aînés.
Les plus
Ouais.
âgés, c'était eux. Ouais. Enfin, il y avait
Il y
plein
avait
de gens.
Françoise Hardy.
Et Françoise Hardy, voilà. Mais elle n'avait pas eu tout cet âge-là. Françoise, elle avait peut-être. Elle a peut-être 5, 6 ans de plus que nous, c'est tout.
Vous la connaissiez avant de faire
Non,
une.
je l'ai connue comme ça, Françoise. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus comme ça. Françoise, on s'est revus pas mal après. Mais voilà, oui, Charlebois, je l'ai connu là. Julien Clerc, je l'ai connu là. Voilà.
Louis Chédid, vous avez un instrument de prédilection qui est la guitare. Ou...
Ouais.
Ouais.
Oui.
Vous avez un fétichisme de la marque de guitare ou pas?
Non. Non, vous savez, il y a tellement de marques de guitares différentes et qui sont toutes. Une guitare, chaque guitare a un son particulier, donc j'en ai beaucoup. Et parfois, c'est pas les guitares les plus chères qui ont le meilleur son. Donc c'est amusant d'aller dans des magasins. Moi, j'aime bien essayer les guitares comme ça, et puis voilà. Et puis quand ça sonne bien, si je peux, je l'achète. Mais c'est un instrument formidable, parce que c'est un instrument. On peut emmener avec soi partout, on peut jouer n'importe où. C'est pas comme le piano, les trucs comme ça, quoi. Ou une batterie, ou un instrument très facile.
Vous jouez de quel autre instrument?
Je joue du piano, je joue des percussions, je joue d'un peu de tout, en fait. Pas d'un peu de tout, non, je joue pas de la trompette, je joue pas du violon, je joue pas. Vous voyez, mais disons que les basses, batterie, piano, guitare, je joue. Je joue, hein, je jouote. Guitare, je joue, mais piano, je jouote et le reste, je joue. J'adore jouer. C'est vraiment le mot est bien trouvé, je trouve, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un jeu d'enfant. C'est que ça.
De
Ouais, enfin,
toucher
faire de la musique,
l'instrument, de
jouer,
faire.
on dit jouer la comédie, on dit jouer de la guitare, on dit. Le mot est bien trouvé, parce que c'est vraiment du jeu, quoi, c'est de l'amusement. C'est pas autre chose.
Vous pouvez définir Louis Chédid, pas en des termes techniques, mais la tessiture de votre voix, enfin votre voix.
Ah non,
Ouais.
je peux pas, non.
Alors l'effet que vous pensez qu'elle fait,
Ah mais
non?
je sais pas, moi. Vous savez, là, c'est comme si je vous dis Quel effet vous pensez faire quand on vous voit? Qu'est-ce que vous allez me répondre?
Ah ben non, oui, je peux pas.
Oui, voilà, c'est pareil.
Ah, c'est pareil.
Ah ben,
Oui, mais parce
absolument.
qu'une voix, oui.
Ouais, c'est pareil. Moi, quand j'entends ma voix, j'arrive pas du tout à me dire c'est bien, c'est pas bien. Quand je me vois sur une photo, j'aime pas ça, comme beaucoup de gens. Et donc,
Vous n'aimez pas vous entendre?
je n'aime pas me voir sur une
Ah
photo.
oui, et vous entendre, ça va.
Oui, ah
Vous,
bah, de toute
même
façon,
parler après un entretien.
je ne réfléchis pas du tout à ce genre de choses. Je me dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je suis pas du tout objectif. On peut pas juger soi-même comme si on se regarde et on se dit est-ce que je suis beau, est-ce que je suis pas beau. Vous voyez, je veux dire, c'est un truc, c'est même pas, c'est pas des questions qu'on se pose. Ben, moi, je me pose pas ce genre de questions. Il y a des gens très égaux et très narcissiques qui peuvent peut-être se les poser ou des gens qui se détestent, voilà, mais moi, je me pose pas du tout ce genre de questions.
Alors, est-ce que vous allez me faire la même réponse si je vous demande quelle est l'atmosphère, selon vous, de vos chansons? Est-ce qu'elles sont plus... Ouais.
Mais ça dépend parce que c'est des chansons et il y a des chansons très différentes. Il y a des chansons qui sont très balades, très mélancoliques. Il y en a d'autres qui sont des chansons d'amour. Il y a des chansons beaucoup plus rythmées. Il y a des chansons. Moi, je m'interdis aucun style. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, j'ai une voix qui est plutôt une voix douce. C'est pas une voix. Comme Pagny ou des gens qui chantent très fort et tout ça. Et moi, j'ai plus une voix intime, quoi. Alors que ça induit, voilà, c'est plutôt des ambiances comme ça. Mais j'aime bien faire des trucs très rythmés, très, voilà. Enfin, mais c'est des tempos moyens. C'est jamais des tempos ultra excités, ultra, voilà. C'est très difficile
Oui.
d'analyser ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment justement, si on fait des choses, c'est justement pour ne pas avoir à les analyser. Donc, et ou les expliquer. Quand par exemple on me dit qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette chanson? Je dis écoutez, et puis normalement ça devrait. Ou alors j'ai complètement raté mon coup, hein, c'est possible aussi.
Alors, en 81, vous écrivez, Ainsi soit-il,
Ouais.
autre tube. Dans lequel le cinéma est présent.
Oui, bien sûr.
Et vous pouvez faire cette chanson grâce à des synthétiseurs,
Oui.
à un synthétiseur
Oui, voilà.
qui est tout nouveau. Enfin,
Exactement, exactement. Non, mais c'est-à-dire que c'est les années 80, début des années 80, il y a eu toute une. Il y a eu les premières boîtes à rythme, électroniques, Bon, un peu avant, il y a eu les premiers Moog synthétiseurs. C'est tout d'un coup, la musique qui était purement acoustique, c'est-à-dire une guitare, un piano, les instruments traditionnels, il y avait une palette beaucoup plus large qui s'ouvrait. C'était des instruments électroniques. Et donc avec des sons, des palettes de sons à l'infini, très nouveaux. Et donc évidemment, c'était pour des musiciens une ouverture inouïe, quoi. Parce que ça vous faisait créer des ambiances différentes. Et voilà, et moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours eu des studios, des trucs comme ça, des endroits où je pouvais travailler. Et puis j'aime bien manipuler créer du son, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, les jeunes maintenant, ils disent plus les chansons, ils disent le son, il est vraiment bien. Ils disent plus la chanson, elle est bien, ils disent le son, il est bien. Et ça fait une sacrée différence aussi. Et voilà, donc j'avais acheté un synthé qui coûtait la peau des fesses. Et je m'étais fait cette folie. Et puis, en posant mes mains, le premier jour où j'ai posé mes mains sur ce synthé, il y a eu ce son de Ainsi soit-il, ces nappes comme ça, un peu vibrante et voilà et j'avais ce texte cette idée de texte dans la tête et j'ai fait cette chanson dans l'enthousiasme en une demi-heure quoi vraiment ça a été rapide puis il y avait l'idée des tonalités qui changeaient sans arrêt etc voilà voilà, et j'ai amorti cet investissement très vite
Est-ce que ça coûte...
ça coûtait très cher
Ouais.
mais En aparté, vous connaissez quelqu'un qui a acheté j'ai acheté les trucs les plus chers de la place de Paris à l'époque, les Fairlight, qui étaient des armoires comme ça, qui pesaient 50 kilos. On pouvait échantillonner, quand on sait qu'aujourd'hui on peut échantillonner des téras de mémoire.
Échantillonner, ça veut dire quoi?
Échantillonner, ça veut dire que vous enregistrez, ben voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'échantillonner sur son enregistreur au lieu de. Enfin, j'imagine que ce n'est pas une bande. Hein. Et voilà, c'est en numérique, quoi. C'est d'enregistrer en numérique, mais sur des fichiers. Mais à l'époque, le Fairlight, ça pesait 50 kilos. Et on pouvait échantillonner 190 mégas. C'est-à-dire, c'est même pas. C'est même. Maintenant, sur une petite clé USB, on peut échantillonner 60 gigas. Ça, c'est bon. Et donc, c'était vraiment la préhistoire et ça coûtait une fortune.
Et à partir d'Ainsi soit-il, vous faites vous écrivez, enfin, toutes vos chansons sont faites avec ce qu'offre un synthétiseur.
Pas toutes, pas toutes. Je vous dis, ça dépendait, hein, mais j'ai pas mal utilisé les boîtes à rythme nouvelles. J'ai pas mal utilisé tout ça parce que c'était vraiment très ludique à utiliser.
Oui, dans le dictionnaire de ma vie, Louis Chédid, vous écrivez que vous êtes geek, que vous
Moi, c'est
avant
ça,
même le
moi.
synthétiseur, vous aimiez l'informatique.
Ouais, enfin, c'est surtout à partir du moment où l'informatique musicale a commencé à. Ça a commencé, je vous dis, dans les années, je dirais, 80, 80 et quelques. Oui, je me suis. Les ordinateurs, des trucs comme ça. La musique par ordinateur, quoi. Et qui maintenant est devenu. On fait plus de musique autrement qu'en enregistre. Avant, il y avait des enregistreurs avec des bandes énormes, des bandes 48 pistes ou 24 pistes. Ça coûtait très très cher. L'enregistreur lui-même devait coûter, je sais pas combien. Je sais plus parce que j'arrive pas à convertir, mais disons peut-être 200 000 euros. Un enregistreur à caille. Aujourd'hui, avec un ordinateur et une interface, etc., vous en sortez pour, disons, 3 000-4 000 euros et vous enregistrez un disque. Oui, enfin bon.
Donc vous n'enregistrez plus vos disques en... Vous les enregistrez à la maison?
Non, non, non,
Non.
non, je n'enregistre pas à la maison, mais donc c'est pour expliquer que oui, il y a des jeunes groupes, etc., qui enregistrent leurs disques chez eux. Hein. Je veux dire, il y a énormément de disques qui se font à la maison. Mais maintenant, c'est très facile. Il faut des micros, les machins, et puis, non, ouais, c'est des gros. Ça a complètement, ça s'est démocratisé. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont envie de faire des disques aujourd'hui, parce que je veux dire, ça s'est énormément démocratisé. Et tant mieux, c'est bien.
Vous aimez la musique, vous aimez
J'aime
la
pas du tout la
techno,
musique.
non, mais vous aimez les remixes, les...
Non.
Non. Donc vous n'aimez pas tout ce qui est... Enfin, quand la techno a commencé, vous l'aimiez ou pas?
Ah, mais moi j'en fais de la techno avant que la techno commence. Alors, je veux dire, tout ce que je faisais à l'époque, justement, les boîtes à rythme, c'est ça la techno, c'est utiliser la technologie informatique et musicale pour faire. C'est ça la techno, c'est. Donc, oui, bien sûr, j'aime ça, puisque j'en faisais. Et j'en fais toujours d'ailleurs. Ça m'arrive si vous voulez, mais la techno c'est une forme musicale. Alors, on peut faire une chanson avec juste une guitare acoustique et c'est très beau, le son est magnifique et tout. Et puis aussi faire d'autres chansons. Voilà, j'aime mélanger les genres.
Est-ce que vous avez fait du rap avant que le rap existe?
Non, j'ai pas fait.
Non.
Là. Bah, soit-il, c'est une forme de rap un peu, parce que c'est presque parler. Enfin, c'est pas du rap, c'est plus du slam, mais c'est presque parler comme chanson. C'est à peine chanté.
Oui. Et vous aimez bien le rap?
Alors il y a. Je n'aime, je peux jamais répondre à ce genre de questions non plus parce que ça veut rien dire. On peut pas dire j'aime le rock. C'est comme si on dit j'aime le rock, j'aime le. Oui, évidemment, j'aime toutes les formes de musique à partir du moment où ça me plaît. Mais j'aime pas tout le rap, j'aime pas tout le rock, j'aime pas toute la bossa nova. J'aime. Il y a des trucs qui me plaisent. Alors je me dis pas tiens ça c'est de la tiens ça c'est de la bossa nova. Alors ça j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi quand ça me plaît. J'aime. Enfin, ça me plaît pas, j'aime pas. Mais par contre, j'aime toutes les formes de musique. Hein. J'aime des trucs de jazz, j'aime des trucs de. Je peux même aimer. J'adore des trucs classiques. Faut que ça me touche, quoi. C'est tout.
Qu'est-ce que vous aimez comme musique classique?
Oh, bah, plein de trucs.
Vous aimez autant les opéras que la musique seule?
Non, les opéras, je suis moins. Je ne suis jamais vraiment rentré dans l'opéra. Parce que pour moi, l'opéra, la façon de chanter, pour moi, est trop. C'est un peu comme la façon de déclamer du texte dans le théâtre ancien. Voyez, ah, les grandes emphases et tout ça. Alors, moi, l'opéra, ça me fait un peu cet effet-là. Alors, évidemment, je reconnais. Les grandes voix comme la Callas, comme ça, mais disons que c'est pas ce que je préfère. Mais la musique classique, oui, enfin, alors par contre, ça me touche énormément. Ouais. C'est pas pareil.
Ça peut vous arriver pendant que vous composez une mélodie de vous apercevoir que vous êtes influencé par un morceau de musique classique que vous avez écouté il n'y a pas longtemps.
On est influencé par des tas de choses. Vous savez, dans le disque dur qui est là-haut, là, dans notre tête, on emmagasine tellement, 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 tellement d'informations, de musique, d'images, de machin, de trucs, qu'évidemment, sans s'en rendre compte, il y a des tas de choses qui vous conditionnent et qui font que quand vous faites une musique, il ne s'agit pas de plagier ou quoi que ce soit, mais il y a évidemment des influences. C'est obligé. On peut pas bâtir sur rien. C'est impossible. Donc voilà. Après, oui, bien sûr que quand j'écoute des trucs, mais quand j'écoute aussi des chansons, hein, je veux dire des thèmes, des trucs. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment.
Dans les années 80, Louis Chédid, quand vous écrivez Ainsi soit-il, est-ce que vous écrivez aussi pour d'autres?
Oui, j'ai écrit pour d'autres. J'ai écrit pour Souchon. On a fait des chansons ensemble. Et pour Françoise Hardy. Et puis j'ai fait des musiques de films, des choses comme ça.
Quelle chanson vous avez écrite pour Souchon et
J'ai fait
Hardy?
On avance, on avance. On avance, on avance. Et puis une chanson qui s'appelle Banal
Ah
Song.
oui,
Oui,
ah oui.
oui. Bah, j'ai fait la musique. Hein.
Ah d'accord.
Oui. Et c'est lui qui fait ses textes. Et pour Françoise Hardy, j'ai fait Moi vouloir toi. Voilà, j'ai fait. Et puis deux, trois autres trucs moins connus. Et voilà.
Et vous aimez bien écrire pour d'autres?
Ah oui, j'aime bien, mais après, c'est un autre. C'est, je l'ai fait parce que c'est vraiment des gens que je connais bien et que c'était eux qui me demandaient. Donc je l'ai fait avec plaisir, mais c'est pas un truc que je ferais systématiquement parce que c'est très difficile quand on a son style à soi de faire des chansons pour les autres. Très, très compliqué.
Et les musiques de films,
Musique de
c'était...
film, j'ai fait aussi parce que c'était des amis, quoi. Vraiment, vraiment des amis. Mais c'est pas un truc que je fais régulièrement parce que c'est vraiment un travail énorme et je préfère me consacrer à des trucs plus personnels.
Là, chez vous, à Paris, où nous enregistrons, il y a un grand... Il y a des étagères avec beaucoup de DVD.
Ouais, mais enfin que
Ouais.
je regarde jamais maintenant.
Ah, mais que vous avez regardé. Il y en
Que
a
j'ai regardé,
beaucoup.
que j'ai
Ouais.
regardé, ouais. Ben, je veux dire, c'est presque un format désuet maintenant, DVD, puisque on a tout en numérique maintenant sur ordinateur, etc. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller dans une bibliothèque iTunes que de voir un DVD, vous voyez ce que je veux dire. Mais à une époque, oui, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Mais je les regarde plus du tout, parce que je les utilise plus. Il y a plein de films vachement bien là-dedans, mais que j'ai dans mon ordinateur. Moi, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 70. Il doit y en avoir quelques-uns. J'aime beaucoup le cinéma indien aussi, les Bollywood, j'adore ça. Mais enfin, le cinéma américain domine, oui, sûrement. Ouais, ils font beaucoup de films, quand même. Mais le cinéma indien aussi, ils font énormément de films. En Inde, ils font plus de films par an qu'aux États-Unis. C'est vraiment le plus gros producteur de cinéma au monde. Bon, après, il y a tout. Hein, mais il y a des films vachement bien maintenant. Il commence à faire des films vraiment, vraiment très, très bien.
Et vous avez réalisé un film,
Non, non.
un
Un
court
long
métra-
métrage?
un
Non.
court métrage.
Oui, j'en ai réalisé plusieurs. J'en ai réalisé plusieurs, mais un long métrage, non. Jamais. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai, j'espère. Mais pour l'instant, non.
Vous aimeriez?
Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais c'est un travail de très longue haleine. Il faut faire que ça, quoi. Donc, faut trouver le temps, quoi. C'est toujours le problème, c'est les problèmes de temps, en fait.
Et écrire le scénario, parce que Vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit un livre autobiographique. Mmh. Écrire un scénario, ça, vous aimeriez.
Mais je vous dis, c'est vraiment une question de temps. C'est une question de... Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça. Je ne sais pas, on verra.
Vous travaillez... Vous avez un... Enfin, là où nous sommes, par exemple, il y a un synthétiseur. Vous travaillez sur...
Oui, bien sûr. Ouais. Oui.
Et dans votre maison, parce que vous allez dans le sud, vous aimez... Oui. Il y a aussi...
Oui. Ouais, partout. Ça c'est obligatoire, hein. C'est vraiment c'est une de mes activités, vous voyez, donc c'est normal qu'il y ait...
Est-ce que vous voyagez, Louis Chédid? Est-ce que vous avez le temps?
Oui, ça m'arrive, oui, de voyager, oui. Oui, j'aime bien voyager. Ouais. Ben, je vais en Inde pas mal, j'aime beaucoup aller en Inde. C'est un pays extraordinaire, avec plein de défauts sûrement, mais beaucoup de choses formidables. Et pays très différent des nôtres, beaucoup moins matérialiste, enfin, certains très très dans la spiritualité. Non, mais j'aime beaucoup ce pays. Je connais pas tout, c'est tellement énorme. Mais j'y ai été plusieurs fois, et puis sinon, je vais en Italie, je vais... quand je peux, je vais une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais bon, c'est pas évident.
Et quand vous voyagez, est-ce que la musique reste... Est-ce que découvrir, aller écouter de la musique là où il y en a, que ce soit un concert ou un bar, est l'une des activités importantes?
Non. La musique locale,
oui,
vous voulez dire?
Oui.
Non, après, vous savez, malheureusement, maintenant, en Europe, quand vous allez en Europe, la musique locale, vous ne l'entendez plus. Hein, vous entendez que des trucs anglais, américains et... Enfin, vous entendez ce que tout le monde entend en Europe, beaucoup plus que la musique autochtone. Mais par contre, quand vous êtes en Inde, vous entendez vraiment la musique indienne, quoi. Vous n'entendez pas des Beyoncé, sauf dans les hôtels, mais disons que c'est plutôt de la musique du terroir, quoi. Et, alors là, oui, ça, je vais voir des trucs comme ça. Mais il y en a partout, dans la rue, dans machin, les gens y jouent naturellement.
Bien, je vous remercie. Bonsoir, Louis Chédid.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Léné avec Louis Chédid. Voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Yves Le Horse, coordination Claire Poinsignon. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.